le renvoya, puis se plaignit de ce qu'on la servait horriblement. Afin de l'amuser, il s'offrit comme domestique, se prétendant capable de donner des assiettes, d'épousseter les meubles, d'annoncer le monde, d'être enfin un valet de chambre ou plutôt un chasseur, bien que la mode en fût passée. Il aurait voulu se tenir derrière sa voiture avec un chapeau de plume de coq. « Et comme je vous suivrai à pied majestueusement, en portant sur le bras un petit chien. »« Vous êtes gai, » dit Madame d'Ambreuse. « N'était-ce pas une folie, » reprit-il, « de considérer tout sérieusement ? Il y avait bien assez de misère, sans s'enforger. Rien ne méritait la peine d'une douleur. » Madame d'Ambreuse leva les sourcils d'une manière de vague approbation. Cette parité de sentiments poussa Frédéric à plus de hardiesse. Ses mécomptes d'autrefois lui faisaient maintenant une clairvoyance. Il poursuivit. Nos grands-pères vivaient mieux. Pourquoi ne pas obéir à l'impulsion qui nous pousse? L'amour, après tout, n'était pas en soi une chose si importante. Mais c'est immoral, ce que vous dites là. Elle s'était remise sur la causeuse. Il s'assit au bord, contre ses pieds. Ne voyez-vous pas que je mens? Car, pour plaire aux femmes, il faut étaler une insouciance de bouffon ou des fureurs de tragédie. Elles se moquent de nous quand on leur dit qu'on les aime, simplement. Moi, je trouve ces hyperboles où elles s'amusent une profanation de l'amour vrai. Si bien qu'on ne sait plus comment l'exprimer, surtout devant celles qui ont beaucoup d'esprit. Elle le considérait, les cils entreclos. Il baissait la voix en se penchant vers son visage. Oui, vous me faites peur. Je vous offense peut-être. Pardon. Je ne voulais pas dire tout cela. « Ce n'est pas ma faute, vous êtes si belle. » Madame d'Ambreuse ferma les yeux, et il fut surpris par la facilité de sa victoire. Les grands arbres du jardin qui frissonnaient mollement s'arrêtèrent. Des nuages immobiles rayaient le ciel de longues bandes rouges, et il y eut comme une suspension universelle des choses. Alors, des soirs semblables, avec des silences pareils, revinrent dans son esprit, confusément. « Où était-ce ? » Il se mit à genoux, prit sa main, et lui jura un amour éternel. Puis, comme il partait, elle le rappela d'un signe et lui dit tout bas « Revenez dîner, nous serons seuls. » Il semblait à Frédéric, en descendant l'escalier, qu'il était devenu un autre homme, que la température embaumante des serres chaudes l'entourait, qu'il entrait définitivement dans le monde supérieur des adultères patriciens et des hautes intrigues. Pour y tenir la première place, il suffisait d'une femme, comme celle-là, avide, sans doute, de pouvoir et d'action, et mariée à un homme médiocre qu'elle avait prodigieusement servi, elle désirait quelqu'un de fort pour le conduire. Rien d'impossible maintenant. Il se sentait capable de faire 200 lieues à cheval, de travailler pendant plusieurs nuits de suite, sans fatigue. Son cœur débordait d'orgueil. Sur le trottoir, devant lui, un homme couvert d'un vieux paletot marchait la tête basse, et avec un tel air d'accablement que Frédéric se retourna pour le voir. L'autre releva sa figure, c'était Deslauriers. Il hésitait. Frédéric lui sauta au cou. « Ah, mon pauvre vieux, comment c'est toi ?» Et il l'entraîna dans sa maison en lui faisant beaucoup de questions à la fois. L'ex-commissaire de Ledru-Rollin conta, d'abord, les tourments qu'il avait eus. Comme il prêchait la fraternité aux conservateurs et le respect des lois aux socialistes, les uns lui avaient tiré des coups de fusil, les autres apportaient une corde pour le pendre. Après juin, on l'avait destitué brutalement. Il s'était jeté dans un complot, celui des armes saisi à Troyes. On l'avait relâché, faute de preuves. Puis, le comité d'action l'avait envoyé à Londres, où il s'était flanqué des gifles avec ses frères, au milieu d'un banquet. De retour à Paris. « Pourquoi n'es-tu pas venu chez moi ? » ?»« Tu étais toujours absent. » Ton Suisse avait des allures mystérieuses, je ne savais que penser, et puis je ne voulais pas reparaître en vaincu. Il avait frappé aux portes de la démocratie, s'offrant à la servir de sa plume, de sa parole, de ses démarches. Partout, on l'avait repoussé, on se méfiait de lui, et il avait vendu sa montre, sa bibliothèque, son linge. Mieux vaudrait crever sur les pontons de Belle-Île, avec Sénécal. Frédéric, qui arrangeait alors sa cravate, n'eut pas l'air très ému par cette nouvelle. « Ah, il est déporté, ce bon Sénécal ?» Deslauriers répliqua en parcourant les murailles d'un air envieux. « Tout le monde n'a pas ta chance. »« Excuse-moi, » dit Frédéric, sans remarquer l'allusion, « mais je dîne en ville. On va te faire à manger. Commande ce que tu voudras. Prends même mon lit. » Devant une cordialité si complète, l'amertume de Des Lauriers disparut. Ton lit, mais ça te gênerait?
Eh non, j'en ai d'autres.
Ah, très bien, reprit l'avocat en riant. Où dînes-tu donc?
Chez Madame d'Ambreuse.
Est-ce que, par hasard, ce serait...
Tu es trop curieux,
dit Frédéric avec un sourire qui confirmait cette supposition. Puis, ayant regardé la pendule, il se rassit.
C'est comme ça. Et il ne faut pas désespérer, vieux défenseur du peuple.
Miséricorde, que d'autres s'en mêlent. L'avocat détestait les ouvriers pour n'avoir souffert dans sa province, un pays de houille. Chaque puits d'extraction avait nommé un gouvernement provisoire lui intimant des ordres. D'ailleurs, leur conduite était charmante partout, à Lyon, à Lille, au Havre, à Paris. Car à l'exemple des fabricants qui voudraient exclure les produits de l'étranger, ces messieurs réclament pour qu'on bannisse les travailleurs anglais, allemands, belges et savoyards. Quant à leur intelligence, à quoi a servi sous la Restauration leur fameux compagnonnage? En 1830, ils sont entrés dans la garde nationale, sans même avoir le bon sens de la dominer. Est-ce que, dès le lendemain de 48, les corps de métier n'ont pas reparu avec des étendards à eux? Ils demandaient même des représentants du peuple à eux, lesquels n'auraient parlé que pour eux. Tout comme les députés de la betterave ne s'inquiètent que de la betterave. Ah, j'en ai assez de ces cocos-là, se prosternant tour à tour devant l'échafaud de Robespierre, les bottes de l'empereur, le parapluie de Louis-Philippe, racaille éternellement dévouée à qui lui jette du pain dans la gueule. On crie toujours contre la vénalité de Talleyrand et de Mirabeau. Mais le commissionnaire d'en bas vendrait la patrie pour 50 centimes si on lui promettait de tarifer sa course à 3 francs. Ah, quelle faute! Nous aurions dû mettre le feu aux 4 coins de l'Europe. Frédéric lui répondit. L'étincelle manquait. Vous étiez simplement deux petits bourgeois, et les meilleurs d'entre vous des cuistres.
Quant aux ouvriers, ils peuvent se plaindre,
car si l'on accepte 1 million soustrait à la liste civile, et que vous l'avez octroyé avec la plus basse flagornerie, vous n'avez rien fait pour eux que des phrases. Le livret demeure aux mains du patron, et le salarié, même devant la justice, reste l'inférieur de son maître, puisque sa parole n'est pas crue. Enfin, la République me paraît vieille. Qui sait? Le progrès, peut-être, n'est réalisable que par une aristocratie ou par un homme. L'initiative vient toujours d'en haut. Le peuple est mineur, quoi qu'on prétende.
C'est peut-être vrai, dit Des Lauriers.
Selon Frédéric, la grande masse des citoyens n'aspirait qu'au repos. Il avait profité à l'hôtel d'Ambreuse. Et toutes les chances étaient pour les conservateurs. Ce parti-là, cependant, manquait d'hommes neufs.
Si tu te